Sur la lecture 2. On sait que Les Trésors des Rois est une conférence sur la lecture que Ruskin donna à l'hôtel de ville de Rusholme, près Manchester, le 6 décembre 1864, pour aider à la création d'une bibliothèque à l'Institut de Rusholme. Le 14 décembre, il en prononçait une seconde, Des Jardins des Reines, sur le rôle de la femme, pour aider à fonder des écoles à Ancoats. Pendant toute cette année 1864, dit M. Collingwood, dans son admirable ouvrage Life and Work of Ruskin, il demeura at home, sauf pour faire de fréquentes visites à Carlisle. Et quand en décembre, il donna à Manchester les cours qui, sous le nom de Sésame et les Lys, devinrent son ouvrage le plus populaire, nous pouvons discerner son meilleur état de santé physique et intellectuelle dans les couleurs plus brillantes de sa pensée. Cet ouvrage fut ensuite augmenté par l'addition aux deux premières conférences d'une troisième, The Mystery of Life and Its Arts. Les éditions populaires continuèrent à ne contenir que Des Trésors des Rois et Des Jardins des Reines. Nous n'avons traduit dans le présent volume que ces deux conférences, et sans les faire précéder d'aucune des préfaces que Ruskin écrivit pour Sésame et les Lys. Les dimensions de ce volume et l'abondance de notre propre commentaire ne nous ont pas permis de mieux faire, sauf pour quatre d'entre elles, Smith Elder & Company. Les nombreuses éditions de Sésame et les Lys ont toutes paru chez George Allen, l'illustre éditeur de toute l'œuvre de Ruskin, le maître de Ruskin House. Nous pouvons reconnaître l'écho de ses entretiens avec Carlyle dans l'idéal héroïque, aristocratique et stoïque qu'il propose et dans l'insistance avec laquelle il revient sur la valeur des livres et des bibliothèques publiques, Carlyle étant le fondateur de la London Bibliothèque. Pour nous, qui ne voulons ici que discuter en elle-même et sans nous occuper de ses origines historiques, la thèse de Ruskin, nous pouvons la résumer assez exactement par ces mots de Descartes que « la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs ». Ruskin n'a peut-être pas connu cette pensée, d'ailleurs un peu sèche, du philosophe français, mais c'est elle en réalité qu'on retrouve partout dans sa conférence, enveloppée seulement dans un or apollinien où fondent des brumes anglaises, pareilles à celui dont la gloire illumine les paysages de son peintre préféré. À supposer, dit-il, que nous ayons et la volonté et l'intelligence de bien choisir nos amis, combien peu d'entre nous en ont le pouvoir, combien est limitée la sphère de nos choix. Nous ne pouvons connaître qui nous voudrions. Nous pouvons, par une bonne fortune, entrevoir un grand poète et entendre le son de sa voix, ou poser une question à un homme de science qui nous répondra aimablement. Nous pouvons usurper 10 minutes d'entretien dans le cabinet d'un ministre, avoir une fois dans notre vie le privilège d'arrêter le regard d'une reine. Et pourtant, ces hasards fugitifs, nous les convoitons. Nous dépensons nos années, nos passions et nos facultés à la poursuite d'un peu moins que cela. Tandis que, durant ce temps, il y a une société qui nous est continuellement ouverte, de gens qui nous parleraient aussi longtemps que nous le souhaiterions, quel que soit notre rang. Et cette société, parce qu'elle est si nombreuse et si douce, et que nous pouvons la faire attendre près de nous toute une journée. Rois et hommes d'État attendent patiemment, non pour accorder une audience, mais pour l'obtenir. Nous n'allons jamais la chercher dans ces antichambres simplement meublées, que sont les rayons de nos bibliothèques. Nous n'écoutons jamais un mot de ce qu'ils auraient à nous dire. Sésame et Lilis, des trésors des rois, 6. Vous me direz peut-être, ajoute Ruskin, que si vous aimez mieux causer avec des vivants, c'est que vous voyez leur visage, etc. Et réfutant cette première objection, puis une seconde, il montre que la lecture est exactement une conversation avec des hommes beaucoup plus sages et beaucoup plus intéressants que ceux que nous pouvons avoir l'occasion de connaître autour de nous. J'ai essayé de montrer dans les notes dont j'ai accompagné ce volume que la lecture ne saurait être ainsi assimilée à une conversation, fût-ce avec le plus sage des hommes, que ce qui diffère essentiellement entre un livre et un ami, ce n'est pas leur plus ou moins grande sagesse, mais la manière dont on communique avec eux. La lecture, au rebours de la conversation, consistant pour chacun de nous à recevoir communication d'une autre pensée, mais tout en restant seul, c'est-à-dire en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu'on a dans la solitude, et que la conversation dissipe immédiatement, en continuant à pouvoir être inspiré, à rester en plein travail fécond de l'esprit sur lui-même. Si Ruskin avait tiré les conséquences d'autres vérités qu'il a énoncées quelques pages plus loin, il est probable qu'il aurait rencontré une conclusion analogue à la mienne. Mais évidemment, il n'a pas cherché à aller au cœur même de l'idée de lecture. Il n'a voulu, pour nous apprendre le prix de la lecture, que nous conter une sorte de beau mythe platonicien, avec cette simplicité des Grecs qui nous ont montré à peu près toutes les idées vraies et ont laissé aux scrupules modernes le soin de les approfondir. Mais si je crois que la lecture, dans son essence originale, dans ce miracle fécond d'une communication au sein de la solitude, est quelque chose de plus, quelque chose d'autre que ce qu'a dit Ruskin, je ne crois pas malgré cela qu'on puisse lui reconnaître dans notre vie spirituelle le rôle prépondérant qu'il semble lui assigner. Les limites de son rôle dérivent de la nature de ses vertus. Et ses vertus, c'est encore aux lectures d'enfance que je vais aller demander en quoi elles consistent. Ce livre, que vous m'avez vu tout à l'heure lire au coin du feu dans la salle à manger, dans ma chambre, au fond du fauteuil revêtu d'un appuie-tête au crochet, et pendant les belles heures de l'après-midi, sous les noisetiers et les aubépines du parc, où tous les souffles des champs infinis venaient de si loin jouer silencieusement auprès de moi, tendant sans maudire à mes narines distraites l'odeur des trèfles et des sainfoins sur lesquels mes yeux fatigués se levaient parfois. Ce livre, comme vos yeux en se penchant vers lui ne pourraient déchiffrer son titre à 20 ans de distance, ma mémoire, dont la vue est plus appropriée à ce genre de perception, va vous dire quel il était. Le Capitaine Fracasse, de Théophile Gautier. J'en aimais par-dessus tout 2 ou 3 phrases qui m'apparaissaient comme les plus originales et les plus belles de l'ouvrage. Je n'imaginais pas qu'un autre auteur en eût jamais écrit de comparable, mais j'avais le sentiment que leur beauté correspondait à une réalité dont Théophile Gautier ne nous laissait entrevoir, 1 ou 2 fois par volume, qu'un petit coin. Et comme je pensais qu'il la connaissait assurément tout entière, j'aurais voulu lire d'autres livres de lui, où toutes les phrases seraient aussi belles que celles-là, et auraient pour objet les choses sur lesquelles j'aurais désiré avoir son avis. Le rire n'est point cruel de sa nature. Il distingue l'homme de la bête, et il est, ainsi qu'il appert en l'Odyssée d'Homérus, poète grégeois, l'apanage des dieux immortels et bienheureux qui rient olympiennement tous leurs sous durant les loisirs de l'éternité. En réalité, cette phrase ne se trouve pas, au moins sous cette forme, dans le capitaine Fracasse. Au lieu de « Ainsi qu'il appert en l'Odyssée d'Homérus, poète grégeois », il y a simplement « Suivant Homérus ». Mais comme les expressions « Il appert d'Homérus »,« Il appert de l'Odyssée », qui se trouvent ailleurs dans le même ouvrage, me donnaient un plaisir de même qualité, je me suis permis, pour que l'exemple fût plus frappant pour le lecteur, de fondre toutes ces beautés en une, aujourd'hui que je n'ai plus pour elle, à vrai dire, de respect religieux. Ailleurs encore, dans le capitaine Fracasse, Homérus est qualifié de poète grégeois, et je ne doute pas que cela aussi m'enchanta. Toutefois, je ne suis plus capable de retrouver avec assez d'exactitude ces joies oubliées pour être assuré que je n'ai pas forcé la note et dépassé la mesure en accumulant en une seule phrase tant de merveilles. Je ne le crois pas pourtant, et je pense avec regret que l'exaltation avec laquelle je répétais la phrase du capitaine Fracasse, aux iris et aux pervenches penchés au bord de la rivière, en piétinant les cailloux de l'allée, aurait été plus délicieuse encore si j'avais pu trouver en une seule phrase de Gautier tant de ces charmes que mon propre artifice réunit aujourd'hui sans parvenir, hélas, à me donner aucun plaisir. Cette phrase me donnait une véritable ivresse. Je croyais apercevoir une antiquité merveilleuse à travers ce Moyen-Âge que seul Gautier pouvait me révéler. Mais j'aurais voulu qu'au lieu de dire cela furtivement, après l'ennuyeuse description d'un château, que le trop grand nombre de termes que je ne connaissais pas m'empêchait de me figurer le moins du monde, il écrivit tout le long du volume des phrases de ce genre et me parla de choses qu'une fois son livre fini, je pourrais continuer à connaître et à aimer. J'aurais voulu qu'il me dît, lui, le seul sage détenteur de la vérité, ce que je devais penser au juste de Shakespeare, de Saint-Ine, de Sophocle, de Rippe, de Silvio Pellico, que j'avais lu pendant un mois de mars très froid, marchant, tapant des pieds, courant par les chemins. Chaque fois que je venais de fermer le livre, dans l'exaltation de la lecture finie, des forces accumulées dans l'immobilité et du vent salubre qui soufflait dans les rues du village. J'aurais voulu surtout qu'il me dît si j'avais plus de chance d'arriver à la vérité en redoublant ou non ma sixième et en étant plus tard diplomate ou avocat à la cour de cassation. Mais aussitôt la belle phrase finie, il se mettait à décrire une table couverte d'une telle couche de poussière qu'un doigt aurait pu y tracer des caractères. Chose trop insignifiante à mes yeux pour que je pusse même y arrêter mon attention. Et j'en étais réduit à me demander quels autres livres Gautier avait écrits qui contenteraient mieux mon aspiration et me feraient connaître enfin sa pensée tout entière. Et c'est là, en effet, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres, et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle, que, pour l'auteur, il pourrait s'appeler « conclusion » et pour le lecteur « incitation ». Nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit, et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Et ces désirs, il ne peut les éveiller en nous qu'en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d'atteindre. Mais par une loi singulière, et d'ailleurs providentielle, de l'optique des esprits, loi qui signifie peut-être que nous ne pouvons recevoir la vérité de personne et que nous devons la créer nous-mêmes, ce qui est le terme de leur sagesse ne nous apparaît que comme le commencement de la nôtre, de sorte que c'est au moment où ils nous ont dit tout ce qu'ils pouvaient nous dire, qu'ils font naître en nous le sentiment qu'ils ne nous ont encore rien dit. D'ailleurs, si nous leur posons des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, nous leur demandons aussi des réponses qui ne nous instruiraient pas. Car c'est un effet de l'amour que les poètes éveillent en nous, de nous faire attacher une importance littérale à des choses qui ne sont pour eux que significatives d'émotions personnelles. Dans chaque tableau qu'ils nous montrent, ils ne semblent nous donner qu'un léger aperçu d'un site merveilleux, différent du reste du monde, et au cœur duquel nous voudrions qu'ils nous fissent pénétrer. Menez-nous, voudrions-nous pouvoir dire à M. Maeterlinck, à Madame de Noailles, dans le jardin de Zélande, où croissent les fleurs démodées, sur la route parfumée de trèfles et d'armoises, et dans tous les endroits de la terre dont vous ne nous avez pas parlé dans vos livres, mais que vous jugez aussi beaux que ceux-là. Nous voudrions aller voir ce champ que Millet, car les peintres nous enseignent à la façon des poètes, nous montre dans son printemps. Nous voudrions que M. Claude Monet nous conduisit à Giverny, au bord de la Seine, à ce coude de la rivière qu'il nous laisse à peine distinguer à travers la brume du matin. Or, en réalité, ce sont de simples hasards de relation ou de parenté qui, en leur donnant l'occasion de passer ou de séjourner auprès d'eux, ont fait choisir pour les peindre à Madame de Noailles, à Maeterlinck, à Millet, à Claude Monet. Cette route, ce jardin, ce champ, ce coude de rivière, plutôt que tels autres. Ce qui nous les fait paraître autres et plus beaux que le reste du monde, c'est qu'ils portent sur eux, comme un reflet insaisissable, l'impression qu'ils ont donnée au génie, et que nous verrions errer, aussi singulière et aussi despotique, sur la face indifférente et soumise de tous les pays qu'il aurait peints. Cette apparence avec laquelle ils nous charment et nous déçoivent, et au-delà de laquelle nous voudrions aller, c'est l'essence même de cette chose en quelque sorte sans épaisseur, mirage arrêté sur une toile, qu'est une vision. Et cette brume que nos yeux avides voudraient percer, c'est le dernier mot de l'art du peintre. Le suprême effort de l'écrivain comme de l'artiste n'aboutit qu'à soulever partiellement pour nous le voile de laideur et d'insignifiance qui nous laisse incurieux devant l'univers. Alors il nous dit « Regarde, regarde, parfumés de trèfles et d'armoises, serrant leurs vifs ruisseaux étroits, les pays de l'Aisne et de l'Oise. Regarde la maison de Zélande, rose et luisante comme un coquillage. Regarde, apprends à voir. » Et, à ce moment, il disparaît. Tel est le prix de la lecture, et tel est aussi son insuffisance. C'est donner un trop grand rôle à ce qui n'est qu'une initiation, d'en faire une discipline. La lecture est au seuil de la vie spirituelle. Elle peut nous y introduire. Elle ne la constitue pas. Il est cependant certains cas pathologiques pour ainsi dire, de dépression spirituelle où la lecture peut devenir une sorte de discipline curative et être chargée, par des incitations répétées, de réintroduire perpétuellement un esprit paresseux dans la vie de l'esprit. Les livres jouent alors, auprès de lui, un rôle analogue à celui des psychothérapeutes auprès de certains neurasthéniques. On sait que, dans certaines affections du système nerveux, le malade, sans qu'aucun de ses organes soit lui-même atteint, est enlisé dans une sorte d'impossibilité de vouloir, comme dans une ornière profonde d'où il ne peut se tirer seul, et où il finirait par dépérir, si une main puissante et secourable ne lui était tendue. Son cerveau, ses jambes, ses poumons, son estomac sont intacts. Il n'a aucune incapacité réelle de travailler, de marcher, de s'exposer au froid, de manger. Mais ces différents actes, qu'il serait très capable d'accomplir, il est incapable de les vouloir. Et une déchéance organique, qui finirait par devenir l'équivalent des maladies qu'il n'a pas, serait la conséquence irrémédiable de l'inertie de sa volonté, si l'impulsion qu'il ne peut trouver en lui-même ne lui venait de dehors, d'un médecin qui voudra pour lui, jusqu'au jour où seront peu à peu rééduqués ses divers vouloirs organiques. Or, il existe certains esprits qu'on pourrait comparer à ces malades et qu'une sorte de paresse ou de frivolité empêche de descendre spontanément dans les régions profondes de soi-même où commence la véritable vie de l'esprit. Je la sens en germe chez Fontane, dont Sainte-Beuve a dit « Ce côté épicurien était bien fort chez lui. Sans ses habitudes un peu matérielles, Fontane, avec son talent, aurait produit bien davantage et des œuvres plus durables. » Notez que l'impuissant prétend toujours qu'il ne l'est pas. Fontane dit « Je perds mon temps, s'il faut les croire, eux seuls du siècle sont l'honneur. » Et assure qu'il travaille beaucoup. Le cas de Coleridge est déjà plus pathologique. Aucun homme de son temps, ni peut-être d'aucun temps, dit Carpenter, cité par M. Ribot dans son beau livre sur les maladies de la volonté, n'a réuni ni plus que Coleridge la puissance du raisonnement du philosophe, l'imagination du poète, etc. Et pourtant, il n'y a personne qui, étant doué d'aussi remarquables talents, en ait tiré si peu. Le grand défaut de son caractère était le manque de volonté pour mettre ses dons naturels à profit, si bien qu'ayant toujours flottant dans l'esprit de gigantesques projets, il n'a jamais essayé sérieusement d'en exécuter un seul. Ainsi, dès le début de sa carrière, il trouva un libraire généreux qui lui promit 30 guinées pour des poèmes qu'il avait récités, etc. Il préféra venir toutes les semaines mendier sans fournir une seule ligne de ce poème qu'il n'aurait eu qu'à écrire pour se libérer. Ce n'est pas qu'une fois qu'on les y a conduits, ils ne soient capables d'y découvrir et d'y exploiter de véritables richesses, mais, sans cette intervention étrangère, ils vivent à la surface, dans un perpétuel oubli d'eux-mêmes, dans une sorte de passivité qui les rend le jouet de tous les plaisirs, les diminue à la taille de ceux qui les entourent et les agitent, et, pareil à ce gentilhomme qui, partageant depuis son enfance la vie des voleurs de grand chemin, ne se souvenait plus de son nom pour avoir depuis trop longtemps cessé de le porter, il finirait par abolir en eux tout sentiment et tout souvenir de leur noblesse spirituelle. Si une impulsion extérieure ne venait les réintroduire en quelque sorte de force dans la vie de l'esprit, où ils retrouvent subitement la puissance de penser par eux-mêmes et de créer. Or, cette impulsion que l'esprit paresseux ne peut trouver en lui-même et qui doit lui venir d'autrui, il est clair qu'il doit la recevoir au sein de la solitude hors de laquelle, nous l'avons vu, ne peut se produire cette activité créatrice qu'il s'agit précisément de ressusciter en lui. De la pure solitude, l'esprit paresseux ne pourrait rien tirer, puisqu'il est incapable de mettre de lui-même en branle son activité créatrice. Mais la conversation la plus élevée, les conseils les plus pressants, ne lui serviraient non plus à rien, puisque cette activité originale, ils ne peuvent la produire directement. Ce qu'il faut donc, c'est une intervention qui, tout en venant d'un autre, se produise au fond de nous-mêmes. C'est bien l'impulsion d'un autre esprit, mais reçue au sein de la solitude. Or, nous avons vu que c'était précisément là la définition de la lecture, et qu'à la lecture seule, elle convenait. La seule discipline qui puisse exercer une influence favorable sur de tels esprits, c'est donc la lecture. Ce qu'il fallait démontrer, comme disent les géomètres. Mais là encore, la lecture n'agit qu'à la façon d'une incitation qui ne peut en rien se substituer à notre activité personnelle. Elle se contente de nous en rendre l'usage, comme, dans les affections nerveuses auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, le psychothérapeute ne fait que restituer au malade la volonté de se servir de son estomac, de ses jambes, de son cerveau, restés intacts. Soit d'ailleurs que tous les esprits participent plus ou moins à cette paresse, à cette stagnation dans les bas niveaux. Soit que, sans lui être nécessaire, l'exaltation qui suit certaines lectures est une influence propice sur le travail personnel. On cite plus d'un écrivain qui aimait à lire une belle page avant de se mettre au travail. Emerson commençait rarement à écrire sans relire quelques pages de Platon. Et Dante n'est pas le seul poète que Virgile ait conduit jusqu'au seuil du paradis. Tant que la lecture est pour nous l'initiatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes, la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. Il devient dangereux, au contraire, quand, au lieu de nous éveiller à la vie personnelle de l'esprit, la lecture tend à se substituer à elle, quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur, mais comme une chose matérielle, déposée entre les feuillets des livres comme un miel tout préparé par les autres, et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d'esprit. Parfois même, dans certains cas un peu exceptionnels, et d'ailleurs nous le verrons moins dangereux, la vérité, conçue comme extérieure encore, est lointaine, cachée dans un lieu d'accès difficile. C'est alors quelques documents secrets, quelques correspondances inédites, des mémoires qui peuvent jeter sur certains caractères un jour inattendu et dont il est difficile d'avoir communication. Quel bonheur, quel repos pour un esprit fatigué de chercher la vérité en lui-même, de se dire qu'elle est située hors de lui, au feuillet d'un in-folio jalousement conservé dans un couvent de Hollande, et que, si pour arriver jusqu'à elle, il faut se donner de la peine, cette peine sera toute matérielle, ne sera pour la pensée qu'un délassement plein de charme. Sans doute, il faudra faire un long voyage, traverser en coche d'eau les plaines gémissantes de vent, tandis que sur la rive, les roseaux s'inclinent et se relèvent tour à tour dans une ondulation sans fin. Il faudra s'arrêter à Dordrecht, qui mire son église couverte de lierre dans l'entrelac des canaux dormants et dans la Meuse frémissante et dorée où les vaisseaux en glissant dérangent le soir les reflets alignés des toits rouges et du ciel bleu. Et enfin, arrivé au terme du voyage, on ne sera pas encore certain de recevoir communication de la vérité. Il faudra pour cela faire jouer de puissantes influences, se lier avec le vénérable archevêque d'Utrecht, à la belle figure carrée d'ancien janséniste, avec le pieux gardien des archives d'Amersfoort. La conquête de la vérité est conçue dans ces cas-là comme le succès d'une sorte de mission diplomatique, où n'ont manqué ni les difficultés du voyage, ni les hasards de la négociation. Mais qu'importe ? Tous ces membres de la vieille petite église d'Utrecht, de la bonne volonté de qui il dépend que nous entrions en possession de la vérité, sont des gens charmants, dont les visages du XVIIe siècle nous changent des figures accoutumées et avec qui il sera si amusant de rester en relation, au moins par correspondance. L'estime dont ils continueront à nous envoyer de temps à autre le témoignage nous relèvera à nos propres yeux et nous garderons leurs lettres comme un certificat et comme une curiosité. Et nous ne manquerons pas un jour de leur dédier un de nos livres, ce qui est bien le moins que l'on puisse faire, pour des gens qui vous ont fait don de la vérité. Et quant aux quelques recherches, aux courts travaux que nous serons obligés de faire dans la bibliothèque du couvent, et qui seront les préliminaires indispensables de l'acte d'entrée en possession de la vérité que pour plus de prudence et pour qu'elle ne risque pas de nous échapper, nous prendrons en note, nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre des peines qu'ils pourront nous donner. Le calme et la fraîcheur du vieux couvent sont si exquises où les religieuses portent encore le haut hennin aux ailes blanches qu'elles ont dans le Roger van der Weyden du parloir. Et, pendant que nous travaillons, les carillons du XVIIe siècle étourdissent si tendrement l'eau naïve du canal qu'un peu de soleil pâle suffit à éblouir, entre la double rangée d'arbres dépouillés, dès la fin de l'été, qui frôle les miroirs accrochés aux maisons à pignons des deux rives. Je n'ai pas besoin de dire qu'il serait inutile de chercher ce couvent près d'Utrecht et que tout ce morceau est de pure imagination. Il m'a pourtant été suggéré par les lignes suivantes de M. Léon Séché dans son ouvrage sur Sainte-Beuve. Il, Sainte-Beuve, s'avisa un jour, pendant qu'il était à Liège, de prendre langue avec la petite église d'Utrecht. C'était un peu tard, mais Utrecht était bien loin de Paris, et je ne sais pas si volupté aurait suffi à lui ouvrir à deux battants les archives d'Amersfoort. J'en doute un peu, car même après les deux premiers volumes de son Port-Royal, le pieux savant qui avait alors la garde de ses archives, etc. Sainte-Beuve obtint avec peine du bon M. Karsten la permission d'entrebâiller certains cartons. Ouvrez la deuxième édition de Port-Royal et vous verrez la reconnaissance que Sainte-Beuve témoigna à M. Karsten. Léon Séché, Sainte-Beuve, tome 1, page 229 et suivante. Quant aux détails du voyage, ils reposent tous sur des impressions vraies. Je ne sais si on passe par Dordrecht pour aller à Utrecht. Mais c'est bien tel que je l'ai vu que j'ai décrit Dordrecht. Ce n'est pas en allant à Utrecht, mais à Volendam, que j'ai voyagé en coche d'eau entre les roseaux. Le canal que j'ai placé à Utrecht est à Delft. J'ai vu, à l'hôpital de Beaune, un Van der Weyden et des religieuses d'un ordre venu, je crois, des Flandres, qui portent encore la même coiffe, non que dans le Roger van der Weyden, mais que dans d'autres tableaux vus en Hollande. Cette conception d'une vérité sourde aux appels de la réflexion et docile au jeu des influences, d'une vérité qui s'obtient par lettre de recommandation, que vous remet en main propre celui qui la détenait matériellement sans peut-être seulement la connaître, d'une vérité qui se laisse copier sur un carnet, cette conception de la vérité est pourtant loin d'être la plus dangereuse de toutes. Car bien souvent, pour l'historien, même pour l'érudit, cette vérité qu'ils vont chercher au loin dans un livre est moins, à proprement parler, la vérité elle-même que son indice ou sa preuve, laissant par conséquent place à une autre vérité qu'elle annonce ou qu'elle vérifie, et qui, elle, est du moins une création individuelle de leur esprit. il n'en est pas de même pour le lettré. Lui lit pour lire, pour retenir ce qu'il a lu. Pour lui, le livre n'est pas l'ange qui s'envole aussitôt qu'il a ouvert les portes du jardin céleste, mais une idole immobile, qu'il adore pour elle-même, qui, au lieu de recevoir une dignité vraie des pensées qu'elle éveille, communique une dignité factice à tout ce qui l'entoure. Le lettré invoque en souriant, en l'honneur de tel nom, qu'il se trouve dans Villehardouin ou dans Boccace, en faveur de tel usage qu'il est décrit dans Virgile. Le snobisme pur est plus innocent. Se plaire dans la société de quelqu'un parce qu'il a eu un ancêtre aux croisades, c'est de la vanité. L'intelligence n'a rien à voir à cela. Mais se plaire dans la société de quelqu'un parce que le nom de son grand-père se retrouve souvent dans Alfred de Vigny ou dans Chateaubriand, ou, séduction vraiment irrésistible pour moi, je l'avoue, avoir le blason de sa famille, il s'agit d'une femme bien digne d'être admirée sans cela, dans la grande rose de Notre-Dame d'Amiens, voilà où le péché intellectuel commence. Je l'ai du reste analysé trop longuement ailleurs, quoiqu'il me reste beaucoup à en dire, pour avoir à y insister autrement ici. Son esprit sans activité originale ne sait pas isoler dans les livres la substance qui pourrait le rendre plus fort. Il s'encombre de leur forme intacte qui, au lieu d'être pour lui un élément assimilable, un principe de vie, n'est qu'un corps étranger, un principe de mort. Est-il besoin de dire que si je qualifie de malsain ce goût, cette sorte de respect fétichiste pour les livres, c'est relativement à ce que seraient les habitudes idéales d'un esprit sans défaut qui n'existe pas. Et, comme font les physiologistes qui décrivent un fonctionnement d'organes normal tel qu'il ne s'en rencontre guère chez les êtres vivants. Dans la réalité, au contraire, où il n'y a pas plus d'esprit parfait que de corps entièrement sains, ceux que nous appelons les grands esprits sont atteints comme les autres de cette maladie littéraire. Plus que les autres, pourrait-on dire. Il semble que le goût des livres croisse avec l'intelligence, un peu au-dessous d'elle, mais sur la même tige, comme toute passion s'accompagne d'une prédilection pour ce qui entoure son objet, a du rapport avec lui, dans l'absence, lui en parle encore. Aussi, les plus grands écrivains, dans les heures où ils ne sont pas en communication directe avec la pensée, se plaisent dans la société des livres. N'est-ce pas surtout pour eux, du reste, qu'ils ont été écrits? Ne leur dévoile-t-il pas mille beautés qui restent cachées aux vulgaires? À vrai dire, le fait que des esprits supérieurs soient ce que l'on appelle livresques ne prouve nullement que cela ne soit pas un défaut de l'être. De ce que les hommes médiocres sont souvent travailleurs et les intelligents souvent paresseux, on ne peut pas conclure que le travail n'est pas pour l'esprit une meilleure discipline que la paresse. Malgré cela, rencontrer chez un grand homme un de nos défauts nous incline toujours à nous demander si ce n'était pas au fond une qualité méconnue, et nous n'apprenons pas sans plaisir qu'Hugo savait Quinte-Curse, Tacite et Justin par cœur, qu'il était en mesure, si on contestait devant lui la légitimité d'un terme, d'en établir la filiation jusqu'à l'origine, par des citations qui prouvaient une véritable érudition. Paul Stapfer, Souvenir sur Victor Hugo, paru dans la Revue de Paris. J'ai montré ailleurs comment cette érudition avait chez lui nourri le génie au lieu de l'étouffer, comme un paquet de fagots qui éteint un petit feu et en accroît un grand. Maeterlinck, qui est pour nous le contraire du lettré, dont l'esprit est perpétuellement ouvert aux mille émotions anonymes communiquées par la ruche, le parterre ou l'herbage, nous rassure grandement sur les dangers de l'érudition, presque de la bibliophilie, quand il nous décrit en amateur les gravures qui ornent une vieille édition de Jacob Katz ou de l'abbé Sanderus. Ces dangers, d'ailleurs, quand ils existent, menaçant beaucoup moins l'intelligence que la sensibilité, la capacité de lecture profitable, si l'on peut ainsi dire, est beaucoup plus grande chez les penseurs que chez les écrivains d'imagination. Schopenhauer, par exemple, nous offre l'image d'un esprit dont la vitalité porte légèrement la plus énorme lecture. Chaque connaissance nouvelle étant immédiatement réduite à la part de réalité, à la portion vivante qu'elle contient. Schopenhauer n'avance jamais une opinion sans l'appuyer aussitôt sur plusieurs citations, mais on sent que les textes cités ne sont pour lui que des exemples, des allusions inconscientes et anticipées, où il aime à retrouver quelques traits de sa propre pensée, mais qui ne l'ont nullement inspiré. Je me rappelle une page du Monde comme représentation et comme volonté où il y a peut-être 20 citations à la file. Il s'agit du pessimisme, j'abrège naturellement les citations. Voltaire dans Candide fait la guerre à l'optimisme d'une manière plaisante. Byron l'a faite à sa façon tragique dans Caïn. Hérodote rapporte que les Thraces saluaient le nouveau-né par des gémissements et se réjouissaient à chaque mort. C'est ce qui est exprimé dans les beaux vers que nous rapporte Plutarque. Lugere genitum, tanta qui intravit mala, etc. C'est à cela qu'il faut attribuer la coutume des Mexicains de souhaiter, etc. Et Swift obéissait au même sentiment quand il avait coutume dès sa jeunesse, à en croire sa biographie par Walter Scott, de célébrer le jour de sa naissance comme un jour d'affliction. Chacun connaît ce passage de l'Apologie de Socrate, où Platon dit que la mort est un bien admirable. Une maxime d'Héraclite était conçue de même. Vitae nomen quidem est vita, opus autem mors. Quant aux beaux vers de Théognis, ils sont célèbres. Optima sors homini non esse, etc. Sophocle, dans l'Œdipe à Colone, 1224, en donne l'abrégé suivant. Natum non esse sortes vincit alias omnes, etc. Euripide dit « Omnis hominum vita est plena dolore » Hippolyte 189. Et Homère l'avait déjà dit « Non enim quidquam alicubi est calamitosius homine omnium quodquod super terram spirant » etc. D'ailleurs, Pline l'a dit aussi « Nullum melius esse tempestiva morte » Shakespeare met ses paroles dans la bouche du vieux roi Henri IV. Oh, if this were seen, the happiest youth would shut the book and sit him down and die. Byron, enfin. This something better not to be. Balthazar Gracian nous dépeint l'existence sous les plus noires couleurs dans le Criticon. Etc. Schopenhauer, Le monde comme représentation et comme volonté, chapitre de la vanité et des souffrances de la vie. Si je m'étais déjà laissé entraîner trop loin par Schopenhauer, j'aurais eu plaisir à compléter cette petite démonstration à l'aide des aphorismes sur la sagesse dans la vie, qui est peut-être, de tous les ouvrages que je connais, celui qui suppose, chez un auteur, avec le plus de lecture, le plus d'originalité, de sorte qu'en tête de ce livre, dont chaque page renferme plusieurs citations, Schopenhauer a pu écrire le plus sérieusement du monde, compilé n'est pas mon fait.